Autrefois, pour se repeindre dans le monde, il suffisait d'une bonne vieille carte en papier.
Oh oui, la fameuse carte impossible à replier correctement.
Exactement, cette carte-là. Et elle était très bien, mais elle était figée, muette. Ensuite, le GPS est arrivé.
Et là, ça a tout changé.
Voilà, il a commencé à nous dicter chaque virage avec une précision, presque mathématique. C'était réconfortant, binaire, quoi. On suivait simplement la petite flèche.
C'est ça. On restait le conducteur, mais avec un assistant très doué.
Mais du coup, poussons la logique un peu plus loin, pour ceux qui nous écoutent. Que se passerait-il si, soudainement, la voiture prenait le contrôle absolu du volant?
Ah. Là, on change de dimension.
Et pire encore, et si elle choisissait elle-même la destination finale? Si elle négociait avec les autres véhicules sur la route pour optimiser le trafic, qu'elle payait son propre péage, et qu'elle construisait carrément de nouvelles routes pendant que les passagers dorment profondément?
C'est une image forte, mais c'est très juste.
On passerait d'un simple outil d'assistance à une force d'action totalement autonome. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux avec l'intelligence artificielle.
Tout à fait. On a largement dépassé le stade du petit chatbot sympathique, qui répond à nos questions sur la recette des crêpes.
C'est clair. Aujourd'hui, on entre de plein pied dans l'ère de la machine qui agit. Et donc, pour cette nouvelle exploration approfondie, nous allons décortiquer cette métamorphose fulgurante de notre environnement.
Une métamorphose numérique, mais aussi économique et surtout sociale.
Exactement. Et notre point d'ancrage aujourd'hui, c'est une série d'analyses vraiment fascinantes issues de l'édition du 12 juin 2026 du magazine IA Mag. L'idée ici, ce n'est pas de survoler les mots à la mode pour faire bien.
Non, le but, c'est de plonger dans la mécanique interne.
Voilà, notre mission, c'est de comprendre les mécanismes profonds, comment l'IA redessine le monde du travail, comment elle défie le temps politique et même comment elle questionne nos repères constitutionnels et spirituels.
Sans oublier les choses très concrètes, hein, comme nos achats en ligne ou nos interactions sociales de tous les jours. C'est vraiment l'enjeu central de ces articles.
Absolument.
Il faut dépasser la surface technologique pour observer l'impact structurel. En fait, ce n'est plus du tout une question de puissance de calcul.
C'est-à-dire?
C'est une question de réorganisation de la société humaine face à une entité qui est désormais capable de prendre des décisions intermédiaires, toute seule.
D'accord. Et pour bien comprendre cette bascule, je pense qu'il faut regarder les usages réels. Il y a une donnée frappante dans l'une des analyses. On compte aujourd'hui environ 1 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT chaque mois.
Un chiffre colossal, oui.
Mais en revanche, moins de 1% de ces utilisateurs se servent de codecs ou d'outils similaires. 1 milliard d'un côté et une infime poignée de l'autre. Comment on explique concrètement un tel gouffre?
Mais ce décalage, il illustre parfaitement la différence entre deux ères technologiques. La vaste majorité du public est encore familière avec la première phase.
L'IA conversationnelle, donc.
Exactement. ChatGPT, pour vulgariser un peu, c'est un interlocuteur extrêmement érudit. On lui soumet une requête, il puise dans son modèle et il génère du texte.
Il répond quoi?
Voilà, c'est interactif, oui, mais ça reste fondamentalement passif. Il attend notre impulsion. Alors que Codex et tous les systèmes d'IA agentiques qui en découlent ne sont pas du tout là pour faire la conversation.
Ils font quoi alors?
Codex, c'est un modèle entraîné sur des milliards de lignes de code informatique. Son but, ce n'est pas de générer du texte qu'un humain va lire, c'est de générer des actions logicielles.
D'accord, mais comment ça fonctionne concrètement cette action logicielle pour que notre auditoire visualise bien?
Alors, le passage à l'IA agentique, c'est la capacité pour la machine d'enchaîner des tâches sans qu'un humain n'ait à valider chaque micro-étape.
Sans qu'on clique sur OK à chaque fois?
C'est ça, imaginons qu'on lui donne un objectif global, genre organise ma semaine de prospection commerciale.
Oh, mais un truc bien large.
Oui, une IA agentique va se connecter à l'agenda via une interface, identifier les créneaux libres, puis elle va scanner le web pour trouver les contacts pertinents, elle rédige les emails
Toute seule?
toute seule, et elle va même envoyer ces emails aux heures où les destinataires sont statistiquement les plus susceptibles de les ouvrir. Et s'il y a un refus, elle analyse la réponse et propose automatiquement une date alternative.
C'est fou.
Elle interagit avec d'autres logiciels de manière totalement autonome. C'est vraiment le passage de l'assistance à l'exécution.
Bon, décortiquons tout ça. Si je résume, utiliser l'IA comme ChatGPT, c'est un peu comme avoir un dictionnaire hyper intelligent sur le coin de son bureau.
C'est une bonne comparaison.
Mais l'IA agentique, c'est carrément avoir un bataillon de stagiaires infatigables qui prépare absolument tout le travail opérationnel avant même qu'on arrive au bureau le matin.
Exactement. C'est une force de travail invisible.
Pensons à la façon dont cela transforme un environnement concret. Prenons une rédaction journalistique, par exemple. On a souvent cette image d'Épinal, un peu cliché, de l'IA qui va simplement écrire un article à la place du journaliste pour faire faire des économies au patron.
Oui, le grand remplacement algorithmique. Mais l'article d'IAMAG montre que la mécanique est beaucoup plus subtile et profonde que ça.
Du coup, comment ça se passe en vrai ?
L'objectif d'une intégration agentique réussie dans un média, ce n'est pas de remplacer l'humain qui pense. C'est d'éradiquer les routines chronophages.
D'accord.
Les agents ne font pas que lire les dépêches AFP.
Ils vont plus loin.
Beaucoup plus loin. Ils scannent simultanément les agences mondiales, les réseaux sociaux, les bases de données juridiques et même les registres d'entreprise. Et leur rôle, c'est de croiser ces données en quelques millisecondes.
Donc ils cherchent l'aiguille dans la botte de foin.
C'est ça. Ils peuvent détecter une petite anomalie financière dans un rapport public obscur, la relier à un événement politique récent et, paf, alerter la rédaction sur l'émergence d'un signal faible.
Et tout cela, ça se passe avant même la fameuse conférence de rédaction matinale. En fait, quand le journaliste s'assoit avec son café, l'IA lui a déjà préparé une fiche de synthèse.
Avec les faits prévérifiés.
Oui, la chronologie des événements, les risques juridiques de diffamation potentielle et même la liste des experts à appeler avec leur numéro à jour.
C'est un gain de temps inouï. Et du coup, le rôle du journaliste s'élève. Il n'est plus un simple collecteur d'informations de base.
Il devient quoi ?
Un arbitre.
Un arbitre, oui, mais surtout un enquêteur sur le terrain. Celui qui va chercher l'émotion humaine, la nuance, et qui va être le metteur en récit.
D'ailleurs, le processus ne s'arrête pas une fois l'article rédigé, si j'ai bien compris.
Ah non, pas du tout. Une fois le texte validé par l'humain, d'autres agents prennent le relais pour la distribution.
Ils font le service après-vente, en quelque sorte. Ils adaptent le ton de l'article pour générer automatiquement une newsletter, ils extraient les points clés pour créer un script de vidéo courte pour les réseaux et formatent des posts pour LinkedIn ou autre. L'article initial devient une arborescence complète de contenu.
C'est ce qui explique l'émergence de nouveaux métiers très spécifiques évoqués dans l'analyse. On voit apparaître des trucs comme responsable de vérification IA ou éditeur de prompt.
C'est fascinant, n'est-ce pas ?
Oui. Parce qu'un éditeur de prompt, au fond, c'était pas quelqu'un qui écrit des articles. C'est un architecte. Il construit la structure logique que l'IA va utiliser.
Exactement. Et c'est là que se trouve le vrai enjeu. L'avantage concurrentiel d'une entreprise aujourd'hui, que ce soit un média, une boîte de logistique, une banque, ça ne réside plus dans le simple fait d'utiliser l'IA.
Bah non. Utiliser un modèle de base, tout le monde le fait.
Voilà. La vraie ligne de démarcation, c'est la maîtrise de cette fameuse IA agentique. Les entreprises qui resteront bloquées à l'ère de l'IA purement conversationnelle vont se faire écraser par des concurrents capables de coordonner des chaînes d'automatisation entières qui bossent 24 heures sur 24.
Ça fait réfléchir. Mais du coup, si ces machines sont devenues de véritables agents d'exécution, en boucle fermée, capables de travailler en autonomie, il y a une question évidente qui émerge.
La vitesse ?
Oui, à quelle vitesse évolue-t-elle réellement ? Parce que l'article souligne une accélération technologique qui dépasse complètement l'entendement. On estime aujourd'hui que l'autonomie des IA double tous les 4 mois.
C'est un chiffre vertigineux.
Un doublement tous les 4 mois ? Comment on explique mécaniquement une telle courbe de progression ?
Cette accélération exponentielle, elle s'explique par ce qu'on appelle la boucle d'auto-amélioration récursive.
Oula, c'est technique ça.
Un peu, mais le principe est simple. Historiquement, le progrès technologique suivait un schéma très linéaire. Des ingénieurs humains écrivaient du code, ils testaient le logiciel, ils trouvaient des bugs et publiaient une mise à jour l'année suivante.
Ça prenait du temps, l'outil dépendait du temps de cerveau humain.
Voilà. Ce paradigme est totalement brisé aujourd'hui. L'intelligence artificielle participe désormais directement à l'écriture du code de la génération d'IA qui va lui succéder.
C'est ça le point de bascule, la machine qui crée la machine. Comment ça se matérialise dans les labos ?
Une IA très avancée est capable de repérer les goulets d'étranglement dans ses propres réseaux neuronaux. Donc, pendant que les ingénieurs humains dorment, la machine exécute des dizaines de milliers de simulations sur de nouvelles architectures.
Elle teste, elle apprend.
Toute seule. Elle teste de nouvelles manières de traiter la donnée, elle identifie ce qui est le plus performant et elle optimise ses propres algorithmes. Au petit matin, quand des chercheurs arrivent, elle a virtuellement accompli l'équivalent de mois de travail de recherche humaine.
C'est incroyable ! La machine n'est plus seulement le produit de l'innovation, elle en est le moteur autonome.
C'est exactement ça.
Et c'est d'ailleurs ce qui provoque des réactions assez inattendues, hein, au sein même de l'industrie technologique. L'analyse mentionne des labos majeurs comme Anthropic qui appellent publiquement à la mise en place d'un, je cite, « frein mondial ».
Oui, un appel à ralentir.
Leur argument, c'est que ni le marché économique, ni l'éducation, ni nos institutions n'ont la capacité d'absorber une innovation qui se redéfinit tous les 4 mois. Mais posons-nous la question avec un peu de recul pour notre auditoire. N'y a-t-il pas une immense hypocrisie dans cette posture ?
C'est-à-dire ?
Ben, ces mêmes entreprises qui réclament un frein mondial à grands cris sont exactement celles qui lèvent des dizaines de milliards de dollars et appuient frénétiquement sur l'accélérateur pour gagner la course technologique.
C'est le paradoxe absolu.
N'est-ce pas un peu absurde de demander à la société de ralentir alors que les laboratoires refusent de le faire eux-mêmes, de peur de perdre leur part de marché ?
C'est très juste, et cette contradiction est vraiment au cœur du problème. Le secteur privé est enfermé dans un gigantesque dilemme du prisonnier.
Chacun a peur que l'autre avance plus vite.
Voilà. Chaque acteur sait pertinemment que le rythme actuel déstabilise nos structures sociales. Mais aucun laboratoire ne prendra jamais le risque de ralentir unilatéralement, car ça signifierait céder la domination de la prochaine décennie à un concurrent direct.
Du coup, quelle est la solution selon les experts de l'article ?
La conclusion qui s'impose, c'est que ce fameux frein ne peut pas et ne doit pas être industriel. C'est totalement naïf de croire à l'autorégulation d'un marché lancé dans une telle course.
Donc c'est à l'État d'intervenir.
Oui. Ce frein doit impérativement être public, démocratique et souverain. Il s'agit de redonner aux institutions le temps matériel de comprendre ces architectures, de les auditer de manière indépendante et de légiférer.
Sauf que légiférer sur une technologie qui double de capacité tous les 4 mois, c'est là tout le problème.
C'est un casse-tête temporel.
Complètement. C'est comme essayer de rédiger le code de la route pour une voiture de Formule 1 qui roule à 300 à l'heure et qui, pendant qu'elle roule, modifie son propre moteur pour se transformer en avion de chasse.
L'image est excellente. Le décalage est béant.
Le temps politique classique, il est conçu pour la délibération. Il compte en années, en commissions, en débats publics. Le temps de la machine, lui, compte en semaines, voire en jours.
Et les lois ordinaires sont obsolètes avant même d'être publiées au bulletin officiel.
Voilà. Donc, face à ce dépassement, l'analyse d'IAMAG suggère qu'il devient vital de se tourner vers des ancrages beaucoup plus profonds, des principes qui ne fluctuent pas à chaque mise à jour logicielle.
On parle de nos lois fondamentales, là.
Absolument. Prenons un exemple institutionnel majeur abordé dans la source concernant le Maroc. La Cour constitutionnelle, avec l'arrivée de nouveaux membres comme le professeur Ben Abdella, et face à des outils capables d'analyser toute la jurisprudence mondiale en une microseconde, comment une telle institution doit-elle se positionner face à la tentation de l'automatisation de la justice ?
C'est une question cruciale qui touche à la nature même de ce qu'est une constitution. C'est vrai, une IA est redoutablement efficace pour chercher des précédents ou synthétiser d'immenses bases de données juridiques.
Elle est imbattable là-dessus.
Si l'on cherchait uniquement l'optimisation des flux et la rapidité, on pourrait très bien imaginer une IA proposant des verdicts. Mais une constitution n'est pas une simple base de données statistiques.
C'est beaucoup plus que ça.
C'est le réceptacle d'une histoire collective, de lutte sociale, d'un équilibre des pouvoirs et d'une hiérarchie très subtile des droits humains.
Donc, pour traduire cela de manière concrète, pour ceux qui nous écoutent, quand une zone grise juridique apparaît, une zone où deux droits fondamentaux s'opposent frontalement, on ne cherche pas une simple probabilité mathématique.
Exactement. Prenons un conflit très classique, par exemple entre le droit à l'information et le respect de la vie privée.
Un grand classique, oui.
Une IA va simplement chercher une corrélation statistique basée sur tous les jugements passés. Or, la justice constitutionnelle, ce n'est pas le calcul d'une moyenne. C'est l'exercice du discernement institutionnel.
Le discernement, le mot-clé.
C'est la capacité d'un groupe d'humains, avec leur sagesse collégiale, de prendre une décision qui peut parfois aller à l'encontre des probabilités statistiques, tout simplement parce que le contexte sociétal l'exige à cet instant précis.
L'empathie sociale, en fait.
Voilà. L'interprétation de l'esprit d'une loi fondamentale, la nuance, doivent demeurer un monopole strictement humain. La machine propose, mais le discernement final reste biologique.
Et ce besoin viscéral de discernement dépasse même largement le cadre juridique. L'article le prolonge jusqu'à la sphère spirituelle, et c'est une perspective vraiment fascinante.
Oui, c'est une grille de lecture très pertinente.
Dans le contexte des valeurs de l'islam, par exemple, telles que rapportées par la source, la puissance de cette technologie n'est pas du tout perçue comme une simple accumulation de processeurs. L'émergence de l'IA autonome y est analysée comme une véritable épreuve morale.
Une fitna, comme mentionné dans le texte.
C'est ça, une fitna dans le sens d'un test profond pour la société. Et la technologie y est décrite comme une grande amana contemporaine.
C'est-à-dire un dépôt confié, n'est-ce pas ?
Exactement. Un dépôt sacré et une très lourde responsabilité confiée à l'humanité.
Ce qui est intéressant avec cette perspective, c'est qu'elle permet de sortir du déterminisme technologique un peu aveugle. Ça rappelle que l'outil n'est jamais neutre.
Et ça évite les extrêmes.
Complètement. L'approche détaillée dans l'article ne consiste pas à sombrer dans le rejet technophobe, ni à se limiter à des avis binaires, des fatwas hâtives autorisant ou interdisant tel ou tel usage.
Le but, c'est de construire quoi alors ?
L'idée, c'est de bâtir un véritable filk de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une jurisprudence, une compréhension intellectuelle et éthique profonde.
Et sur quel pilier reposerait ce filk contemporain ?
Eh bien, il se structure autour de principes inaliénables. La protection absolue de la dignité humaine, la préservation de la valeur du travail comme accomplissement personnel, et bien sûr la quête de la vérité face à la désinformation automatisée.
Donc orienter la technologie pour maintenir l'équilibre, pas pour remplacer l'homme.
C'est tout à fait ça.
Ce qui nous ramène à la ligne de démarcation ultime, le propre de l'être humain. La machine a beau calculer un milliard de fois plus vite, elle ne fait qu'imiter des schémas. Elle n'a pas d'intention propre.
Contrairement à nous.
L'être humain, lui, agit avec une intention, possède une conscience et porte la responsabilité de ses actes devant la société et devant le divin. Et c'est justement cette responsabilité qui fonde un élément central, la confiance.
La confiance, le grand enjeu.
Oui, et cette notion de confiance, c'est la parfaite passerelle pour redescendre un peu de ces hautes sphères éthiques et observer ce qui se passe concrètement sur le terrain économique marocain de tous les jours.
Et le secteur du e-commerce au Maroc en est un laboratoire d'observation vraiment fascinant.
Complètement. L'article montre que le e-commerce marocain illustre parfaitement ce grand paradoxe de la confiance. D'un côté, les volumes sont là. En 2023, le secteur pesait environ 19 milliards de dirhams.
Avec une croissance énorme, de plus de 30%, il me semble.
Oui, plus de 30% accent. C'est la preuve mathématique d'une numérisation super rapide des habitudes. Mais quand on observe l'infrastructure des transactions...
Ça coince.
Ça coince lourdement, oui. Le système est freiné par un déficit chronique de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Concrètement, qu'est-ce qui grippe la machine, selon vous ?
Les freins soulevés par l'analyse sont très tangibles. C'est d'abord la peur du consommateur de recevoir un produit non conforme à la description en ligne. Ensuite, c'est l'absence quasi totale de services après-vente fiables pour les petits marchands.
Et la logistique, non ?
Surtout la logistique. Il y a de graves lacunes, notamment pour les livraisons en zone rurale ou périurbaine. Du coup, quelle est la conséquence directe de tout ça ?
Les gens ne payent pas en ligne.
Voilà, les consommateurs se protègent en refusant le paiement électronique anticipé. Ils exigent le paiement à la livraison, le fameux cash on delivery.
Et ça, c'est un problème pour les vendeurs ?
Un énorme problème. Ce modèle fait peser un risque logistique et financier colossal sur les marchands, ce qui limite drastiquement leur capacité de développement. Sans confiance, l'outil numérique perd toute sa fluidité.
Surtout que l'enjeu économique actuel, il dépasse largement le simple achat local de tous les jours. L'article évoque une fenêtre d'opportunité historique qui est en train de s'ouvrir.
Avec l'Afrique.
Exactement. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Il s'agit de la possibilité d'utiliser ces plateformes pour propulser le « Made in Morocco » à travers tout le continent.
Mais si cet écosystème de confiance n'est pas bâti rapidement, le risque est très clair.
Lequel ?
Ce n'est pas juste rater quelques ventes. Le vrai risque, c'est que le pays devienne un simple marché de consommation récepteur, un marché où la valeur ajoutée, les marges et surtout les précieuses données comportementales sont entièrement siphonnées par des plateformes technologiques étrangères.
C'est une question de souveraineté pure et dure.
Absolument. Bâtir cette confiance économique exige des arsenaux juridiques protecteurs et une logistique infaillible. Mais l'analyse pointe un contraste sociologique extrêmement troublant.
Lequel ?
D'un côté, on déploie une énergie folle pour instaurer un climat de confiance dans nos transactions économiques en ligne, mais de l'autre, on assiste à un effondrement complet de la confiance sociale sur ces mêmes espaces numériques.
Ah, les réseaux sociaux.
En particulier sur les réseaux sociaux, oui. C'est le miroir numérique de nos frustrations.
C'est vraiment la face sombre de cette numérisation. Quand on observe les sections de commentaires, les débats publics en ligne, au Maroc comme partout ailleurs d'ailleurs, on voit ces espaces se transformer en arènes de brutalité ordinaire.
Ce n'est plus du débat, c'est un défouloir permanent.
C'est ça. On lit un mépris décomplexé. Des insultes fulgurantes, du populisme immédiat. Comment expliquer d'un point de vue systémique qu'un outil conçu à la base pour connecter les gens engendre une telle toxicité ?
Les mécanismes sont profondément ancrés dans l'architecture même de ces plateformes. Premièrement, la barrière de l'écran crée une distance physique qui désinhibe totalement.
On ne voit pas le visage de l'autre.
Exactement. Ce qui, dans la vie réelle, aurait été un murmure honteux ou une pensée retenue par simple convention sociale, ça devient une exhibition assumée.
Et l'algorithme là-dedans ?
C'est le deuxième point crucial. Les algorithmes de recommandation ne font aucune différence éthique entre un contenu qui rassemble et un contenu qui indigne. L'algorithme, il se nourrit uniquement de l'engagement.
Et la colère, ça fait cliquer.
Voilà. La colère et l'outrance génèrent des réactions instantanées. Le système récompense donc financièrement et par la visibilité cette brutalité ordinaire.
C'est terrifiant quand on y pense. L'algorithme agit comme un amplificateur de nos pires instincts. Et cette violence verbale, cette cruauté gratuite, l'article souligne bien qu'elle ne naît pas de nulle part.
Non, c'est un symptôme.
Elle est souvent le reflet miroir de frustrations économiques, d'inégalités sociales ou de pertes de repères, qui trouvent là un exutoire très facile. Mais le coût pour la société est lourd.
Le coût démocratique est même immense. Quand l'agressivité devient la norme absolue de communication, elle détruit la nuance.
Les gens modérés se taisent.
C'est ça. Face à des meutes numériques qui attaquent en groupe, les voix modérées, les experts, ou simplement les citoyens qui cherchent le compromis finissent par s'auto-censurner. Ils désertent ces espaces. La brutalité asphyxie littéralement la respiration démocratique du net.
C'est tout de même un paradoxe absolu. Réfléchissons-y une seconde pour clore cette idée. D'un côté, l'humanité déploie des trésors de génie logiciel pour concevoir des IA agentiques capables de travailler, d'analyser, de rédiger avec une politesse et une précision mathématique totale.
Oui, la machine est courtoise et efficace.
Et de l'autre côté de l'écran, nous, humains, nous sommes longs d'apprendre instantanément les règles les plus rudimentaires de la civilité, du respect et de l'empathie dès qu'on nous donne un clavier.
C'est le grand miroir paradoxal de notre époque. On s'en sauvage sur les réseaux pendant qu'on civilise nos machines.
Exactement.
Et si l'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle que nous venons d'explorer depuis le début, la transition vers une IA autonome, le choc temporel entre la machine et les institutions, la protection du discernement constitutionnel et cette bataille pour la confiance, une tendance globale se dessine.
Laquelle ?
La véritable nouvelle ligne de fracture de demain n'est plus seulement géographique. Elle ne séparera plus uniquement les nations industrialisées de celles en développement.
Où se situe cette nouvelle ligne de front, du coup ?
Elle oppose d'un côté l'intelligence biologique humaine, une intelligence qui par nature a besoin de temps, qui hésite, qui doute, qui a besoin d'empathie et d'ancrage spirituel pour fonctionner. Et de l'autre côté, des systèmes artificiels autonomes qui calculent à la vitesse de la lumière et n'attendent plus que la société s'adapte à eux.
Le défi est immense.
Majeur. Savoir naviguer entre ces deux mondes sans y sacrifier sa souveraineté et surtout sans y perdre son humanité.
C'est une synthèse qui remet parfaitement les choses en perspective. Savoir intégrer l'efficacité de la machine tout en protégeant jalousement le discernement humain. Merci pour cette analyse transversale d'une grande profondeur.
Merci, c'était une discussion nécessaire.
Pour clore cette session, et en reprenant précisément cette idée terrifiante de l'IA qui écrit son propre code la nuit, je voudrais soumettre une réflexion vertigineuse à ceux qui nous écoutent.
Allez-y.
Si ces machines accélèrent constamment leur propre évolution et créent la génération d'IA suivante toute seule, à quel moment précis l'intelligence humaine atteindra-t-elle sa limite biologique ? À quel moment notre cerveau n'aura-t-il tout simplement plus la capacité cognitive nécessaire pour lire ou comprendre le code informatique que la machine vient d'engendrer ? Sommes-nous en train de bâtir le tout premier outil de l'histoire que nous ne serons biologiquement plus capables de comprendre ? Gardez cette question en tête. Merci à tous les esprits curieux pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration.